Nous allons lire notre Bible dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, du verset 1er au verset 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est déjà le sixième jour aujourd'hui que nous parlons de ces six fondements de la foi chrétienne. Nous avons pris déjà 4 jours pour parler du renoncement aux œuvres mortes. Et depuis hier, nous parlons de la foi en Dieu, c'est-à-dire le deuxième fondement. Hier, nous avions vu comme sous-thème concernant la foi en Dieu ce que n'est pas la foi, c'est-à-dire la foi erronée ou la foi anti-biblique. Nous avons également parlé de l'origine de la foi. Nous avons aussi vu la définition de la foi. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parler maintenant de ce qu'est la foi et comment réagissent ceux qui ont la foi, en prenant comme exemple ces héros de la foi cités dans Hébreux chapitre 11. Donc nous allons plus naviguer dans Hébreux chapitre 11 pour voir comment réagit celui qui a la foi ou comment doit vivre celui qui a la foi. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Nous allons lire Hébreux chapitre 1, plutôt 11, verset 1er, pour voir la définition de la foi. Mais nous allons aller jusqu'au verset 3 d'abord, pour parler de ce fondement, notre fondement de base, par rapport à notre foi. Donc je lis Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Première fondation concernant notre foi. Lorsque nous devons avoir la foi ou lorsque nous avons la foi, quelle est la base première ou la première base sur laquelle doit être fondée ou posée notre foi? La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Déjà hier, en parlant de ce qui n'est pas la foi, nous avons montré qu'il y a des gens qui confondent la croyance avec la foi, parce que la foi a comme origine la parole de Dieu. Mais nous devons croire que vraiment, tout ce que nous voyons, le monde physique, ce qui est visible, vient de ce qui est invisible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cela signifie qu'un homme de foi doit toujours garder à l'esprit que le monde spirituel vient avant le monde physique. L'homme de foi doit toujours savoir que ce n'est pas le physique qui vient en premier, mais c'est toujours l'esprit qui vient avant. Donc, lorsque nous voyons des choses se manifester sur la terre, c'est le résultat de ce qui s'est passé déjà dans les spirituels. Voilà pourquoi il nous arrive de faire des songes et de voir exactement ces choses que nous avons vues dans nos songes s'exécuter de façon intégrale quelquefois, pour montrer que le monde spirituel vient avant. Les réalités spirituelles commencent avant de les voir se manifester à l'œil nu. Donc la foi consiste à croire que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et si nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu, nous allons aussi croire que c'est par la parole de Dieu que Dieu soutient toutes choses. La Bible dit, Christ est le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire que Christ est la formule que Dieu a mise en place pour mettre, pour créer le monde. C'est pourquoi quelque part dans le livre de Proverbes, parlant de lui, on dit qu'il est le premier de toutes les créatures. Il existe depuis les temps anciens, pour dire qu'il est éternel. Donc, la première base, comme nous avions dit, c'est croire que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors, par rapport à la foi, la Bible nous cite plusieurs personnages dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mais nous allons ici essayer de voir quelques personnages et voir comment ces gens ont réagi, ce qui peut être un enseignement pour nous aussi. La Bible dit au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Gloire à Dieu. On dit que c'est par la foi que Abel parle encore. Quoique mort par rapport à la chair, mais Abel continue à parler. Mais comment est-ce que Abel parle? C'est là le mystère. C'est ce que nous allons comprendre dans cet enseignement concernant la foi. Premièrement, Abel, par la foi, il nous montre comment offrir à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de l'offrande est devenu un sujet très délicat, mais un sujet aussi qui a fait que plusieurs personnes abandonnent Dieu parce qu'ils ont croisé des vendeurs de foi, des gens qui vendent des miracles, qui vendent la guérison, qui vendent des prophéties, etc., qui font de la piété une source de gain. Finalement, les gens ont été déçus à cause de ces voleurs, croyant que tous ceux qui parlent de Dieu sont là pour chercher de l'argent. Et du coup, ils ont détruit le caractère sacré de l'offrande. On dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pour mieux comprendre cette histoire, tu pourras lire dans Genèse chapitre 4, du premier verset, même jusqu'au verset 8 là-bas. Tu vas comprendre cela. Là-bas, la Bible dit que Dieu connut sa femme Ève, et plutôt, excusez-moi, Adam connut sa femme Ève, et il enfanta un fils. Il dit, j'ai formé l'homme à l'aide de, avec l'aide de Dieu. Il donna à ce fils le nom de Caïn. Après un temps, il y eut un deuxième fils qui donna au nom de Abel. Mais Caïn était laboureur pendant que Abel était berger. Au bout d'un certain temps, Caïn offrit à Dieu les fruits de la terre. Mais Abel, de son côté, il offrit à Dieu les premiers-nés de son troupeau et il donna le meilleur de son troupeau. D'autres versions parlent du meilleur, les meilleures parties. Mais Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn et son offrande. Donc, les premières personnes dans la Bible à offrir à Dieu ou à faire une offrande à Dieu furent Caïn et Abel. Mais dans cette histoire, nous comprenons la pensée de Dieu par rapport à l'offrande. On dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel, ensuite sur son offrande. Qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu ne peut pas recevoir de celui qui n'a pas reçu. Si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne recevra pas aussi ton offrande. La première offrande à faire à Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. Si Dieu nous reçoit, alors tout ce qui est à nous pourra être reçu de Dieu. Le problème entre Caïn et Abel, ce n'était pas la qualité de l'offrande, ni la quantité, mais c'était la disposition du cœur de celui qui donne à Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs spéculations sur cette histoire hein, de Caïn et Abel. Certains disent que si Dieu n'avait pas reçu l'offrande de Caïn, c'est parce que ça venait des fruits de la terre et ça venait de la terre qui était maudite par Dieu. Et Abel, Dieu a reçu son offrande parce que Abel avait donné un animal, l'animal qui était la préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi Dieu avait reçu cela. Mais nous voulons rappeler ici que l'offrande qu'Abel et Caïn avaient fait, c'était une offrande par élévation. C'est-à-dire que chacun devait donner librement, mais en fonction de son travail. C'était tout à fait normal que Caïn donne les fruits de la terre parce que lui cultivait le sol. Et c'était aussi normal qu'Abel donne les animaux parce que lui, il était berger. Donc le problème ici entre Caïn et Abel n'a rien à voir avec la qualité ou la quantité de l'offrande. Mais d'abord sur la qualité de la vie de celui qui offre à Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi, quand nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, il est écrit, si tu es debout devant l'autel, tu veux faire ton offrande. Et que là, sur place, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ne fais pas d'offrande. Mais va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite reviens pour offrir à Dieu ce que tu lui as préparé. C'est très important. Plusieurs personnes, et c'est enseigné comme ça dans plusieurs églises, comme je disais tout à l'heure, ceux qui font de la piété une source de gain, ces gens disent, donne à Dieu, alors Dieu sera content de toi. Donne à Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Donc ça devient comme un business. Non, Dieu, on ne lui donne pas des choses parce que nous voulons recevoir des choses en retour. Mais on lui donne parce qu'on l'aime et il nous a aimés le premier. Caïn et Abel nous révèlent, d'abord la foi d'Abel nous révèle comment donner à Dieu, comment offrir à Dieu. Non seulement je parlais de la vie de la personne, mais ce que nous donnons à Dieu doit aussi être la meilleure partie, les meilleurs morceaux. Souvent, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, les gens négligent, j'ai vu ça au milieu des chrétiens, parce que les gens n'ont pas la notion du sacré. On va lire quelque chose dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc tu peux par exemple voir Matthieu, et juste avant Matthieu, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. On va lire Malachie chapitre 1. Du verset 6 au verset 8, pour comprendre ici par rapport à l'offrande. La Bible dit ceci, un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, vous méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. C'est quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ici, le Seigneur nous rappelle quelque chose de très fondamental ici, concernant le respect. Il dit d'abord que vous m'appelez Père, mais vous ne me donnez pas le respect en tant que Père. Ensuite, vous m'appelez Maître, mais vous ne me respectez pas comme vous le supposez. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu tombent dans ce piège. On dit qu'il est le roi des rois. On dit qu'il est notre tout. Mais souvent, dans notre façon de faire, nous le mettons en second plan ou au moins au dernier plan. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Et nous offrons à Dieu tout ce qui est. Nous offrons à Dieu des restes. Nous offrons à Dieu ce qui a des défauts. Aujourd'hui, par exemple, Parlant de l'offrande, on peut parler de d'offrir par exemple à Dieu notre temps. Quelle est la qualité de notre temps que nous offrons à Dieu? J'étais comme ça, hein, plusieurs chrétiens. Le temps qu'ils offrent à Dieu, c'est 2 minutes juste avant de dormir et 1 minute au réveil. Avant de dormir, ils font une petite prière rapidement, vite fait. Merci Seigneur, voilà, tu m'as protégé. Je dois protège-moi, je veux dormir parce que il se peut que je sois attaqué par des mauvais esprits. Protège-moi et puis voilà, amen, ils dorment. Et dès qu'ils se réveillent le matin, ah, Seigneur, ok, pardon, merci parce que tu m'as protégé. Donne-moi tout ce qu'il faut pour ma journée. Une petite prière rapidement le matin. Et la personne va s'épuiser en faisant tout ce qu'il veut faire. Mais dès qu'il rentre, il tombe par exemple sur la télé, il passe son temps à suivre les séries, à suivre le match, à suivre même des émissions pures, hein, mais pas de temps pour Dieu. À Dieu, c'est un petit temps que nous lui offrons parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Maître. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez même des bêtes mal formées, des bêtes qui avaient des défauts. J'ai parlé par exemple du temps. Quel est le temps que nous offrons à Dieu pour méditer sa parole, pour prier, pour lui parler, pour se consacrer à lui? Quel est le temps que nous donnons à Dieu? J'ai souvent vu des chrétiens aller à l'église en retard et sans être dérangés dans leur conscience. Alors que lorsqu'il s'agit par exemple d'emmener l'enfant à l'école, on n'autorise pas ça. L'enfant arrive toujours à l'heure. Lorsqu'il faut aller au travail, il arrive toujours à l'heure. Lorsqu'il faut par exemple prendre le médicament qu'a donné un médecin, un homme, c'est bien respecté à la lettre, mais quand il s'agit des choses de Dieu, on peut facilement reporter. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas bien. Un homme de foi doit premièrement croire que Dieu existe. Et si nous croyons que Dieu existe, nous allons vivre comme si Dieu était omniprésent, marchant toujours avec nous. Donc Abel a offert à Dieu ce qui était précieux, une bonne offrande. Parce que Abel voyait Dieu. Abel avait la crainte de Dieu. Et Abel s'était donné à Dieu comme une offrande. C'est pourquoi il pouvait faire l'offrande à Dieu. Mais ça n'a pas été le cas de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, son cœur était mauvais. La disposition de son cœur était mauvaise. Lorsque Dieu veut recevoir d'une personne, ce que Dieu regarde, c'est d'abord la disposition de son cœur. C'est pourquoi dans cette dispensation, il n'y a pas une question de donner la dîme à Dieu. La dîme, c'était au temps de la loi. Mais dans cette dispensation, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions lui donner notre vie, la meilleure offrande qui a un sens devant Dieu, comme Romains 12, 1 nous dit, c'est lorsque nous offrons à Dieu nos membres comme un sacrifice. Nous offrons à Dieu nos membres comme un sacrifice. Et si nous avons offert à Dieu nos membres, notre vie, par conséquent, même notre argent appartient à Dieu. Mais nous donnons à Dieu tel que nous résolvons dans notre cœur, sans contrainte ni tristesse. On ne donne pas en fonction des pourcentages, parce que nous ne sommes plus au temps de la loi. Et malheureusement, c'est un enseignement qui a refait surface aujourd'hui dans le cercle évangélique, au milieu des enfants de Dieu. Les hommes de Dieu les menaçant, disant que si vous ne donnez pas à Dieu, la maladie va rentrer. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 3, verset, je crois, 10 à 12 là-bas, où on dit apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Vous verrez, je menacerai celui qui dévore. Vous verrez ce que je ferai sur vous, etc. Tout ce qui est écrit là-bas. Donc les gens mettent leur accent sur ça, alors que lorsque nous voyons la vie de Jésus, et même les apôtres, ils n'ont jamais demandé ça. Donc du coup, les gens commencent à donner en termes de pourcentage aujourd'hui, comme si nous étions encore au temps de la loi de Moïse. Alors que dans cette dispensation, selon 2 Corinthiens 9, 6 à 7, nous devons donner tel que nous le pensons, tel que nous avons résolu dans notre cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire, on peut donner moins de la dîme, on peut donner ce qui représente la dîme, plus de la dîme, tout ce que nous voulons donner, mais que cela se fasse de bon cœur, de gaieté de cœur et de façon libre, sans que quelqu'un nous l'oblige. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, il y a des cahiers de dîmes. On oblige les gens, il faut donner la dîme. Et la dîme, généralement, est orientée vers un seul homme, le pasteur. Et on dit, la dîme, c'est le salaire du pasteur. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. Les apôtres n'avaient pas comme salaire la dîme du peuple. Nous comprenons que c'est tout simplement les gens qui veulent se faire de l'argent au nom de la religion. Donc, offrir à Dieu, nous pouvons offrir à Dieu même notre champ. Hein, les offrandes, ce n'est pas seulement l'argent. Selon Hébreux chapitre 13, verset 15, ça dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à confesser son nom par nos lèvres. Donc, lorsque nous chantons, lorsque nous confessons le nom de Jésus, c'est aussi un sacrifice. Mais nous devons le faire de tout cœur, avec joie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous fassions les choses avec notre cœur. Que nous les fassions de gaieté de cœur. Pas parce qu'on nous a dit de faire. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous contrôle. Mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Car il est écrit, l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Si quelqu'un m'aime, il aimerait ma parole. Il mettra ma parole en pratique. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne pourra pas mettre ma parole en pratique. C'est très important. Donc la foi consiste à aimer Dieu plus que toute autre chose. Et à marcher tout le temps, à chercher la face de Dieu. Abel était agréable à Dieu parce que son cœur était bon. Il avait une bonne disposition de cœur. Mais Caïn fut rejeté parce que son cœur était mauvais. Voilà pourquoi il nous convient d'examiner nos cœurs tout le temps. Nous devons avoir des cœurs purs, pas des cœurs remplis de tristesse, remplis de rancune, remplis de blessures intérieures, qui souhaitent toujours le mal ou qui veulent toujours maudire, etc. Mais des cœurs bien disposés, c'est à ça, bien-aimés, que Dieu nous appelle. Donc, comme je disais, la foi, premièrement, consiste à croire que tout vient de la parole de Dieu, à croire à l'existence de Dieu. Et si nous savons que Dieu existe et qu'il est de notre côté, alors nous allons rendre grâce à Dieu en toutes choses, sachant qu'il est assis sur son trône, il contrôle tous les événements de notre vie. Par conséquent, rien ne pourra nous prendre à dépourvu, rien ne pourra nous surprendre, parce que nous savons que Dieu est derrière. Et voilà qu'on pourra voir des hommes comme Job qui disait, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Il savait que Dieu était au contrôle de tout. Et l'homme de foi doit savoir que Dieu est au contrôle de tout et qu'il n'est jamais seul. Même quand il passe par les temps difficiles, même quand il rencontre le danger, il sait que Dieu est avec lui. Comme a dit David dans le psaume chapitre 23, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est très important. Donc, le premier pas de la foi, c'est prier que Dieu nous révèle qui il est et qu'il nous révèle son omniprésence, qu'il est présent tout le temps avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. C'est ça la base de notre foi. Si nous avons comme base cette façon de faire, cela va nous protéger même du péché. Parce que souvent, quand les gens pêchent, ils regardent à côté et à droite, si on les suit. Mais celui qui sait qu'il vit avec Dieu, il marche avec Dieu, il ne péchera pas parce que il sait que Dieu est avec lui. Il n'a pas besoin de voir les frères d'abord, mais d'abord Dieu. Sa relation avec Dieu est équilibrée. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.